Nous poursuivons sur le thème que nous avons commencé dimanche dernier qui concerne la famille. Alors, on a parlé un petit peu de l'époux. Donc, on va voir aujourd'hui l'épouse. C'est la deuxième partie. Donc, on va lire un texte dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, et le verset 22 à 33. Voilà, on fait la lecture. Éphésiens 5, verset 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Voilà. Donc Dieu a prévu le couple, on en a parlé la semaine dernière, ce couple, bien sûr, se situe dans le cadre du mariage. Nous avons exclu tout ce qui est concubinage ou vie commune sans engagement. Et la parole de Dieu, donc, nous invite dans cette direction. Le mariage étant la base de la famille, le couple, c'est là que vont naître les enfants et vont être élevés, être éduqués. Pour parler de la famille, bien sûr, nous n'allons pas nous référer à la culture de notre propre pays ou l'évolution des mœurs actuelles qui existent ou même la montée d'un féminisme depuis plusieurs décennies, un féminisme radical. Nous prenons appui sur la parole de Dieu uniquement et ainsi nous voyons que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et sont parfaitement égaux aux yeux de Dieu. Ils ont la même valeur. Cependant, la Bible nous montre qu'ils ont quand même des fonctions différentes, des responsabilités différentes et une complémentarité dans le couple. Alors, on a parlé la semaine dernière des devoirs du mari. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je les rappelle. Il est le chef de la femme. Il doit aimer sa femme. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit par rapport à ces mots qui sont très importants. Il doit quitter son père et sa mère. Et il doit s'attacher et s'unir à sa femme, il doit être sage et il doit l'honorer. Voilà pour ce qui concerne le mari, donc on l'a vu dans ce passage. Maintenant, on va se concentrer surtout sur l'épouse. Alors, premier point, l'épouse doit être soumise à son mari. C'est au verset 22 de notre texte, « Que chacune soit soumise à son mari. » Alors, si on s'intéresse au grec, qui est la langue originale de cet épître et du Nouveau Testament, c'est le verbe « hypotasso » qui est utilisé de deux manières différentes. Il est utilisé premièrement dans un cadre militaire et deuxièmement dans un cadre non militaire. Quand il est utilisé dans un cadre militaire, donc se soumettre, signifie que des troupes sont placées sous les ordres d'un commandant. Lorsqu'il est utilisé dans un cadre non militaire, c'est un autre sens qui signifie une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Voilà ce que signifie ce mot, donc, plutôt dans le sens où Paul l'utilise ici dans Éphésiens 5, une attitude volontaire, coopération, assumer une charge et de porter une charge. Donc, qu'est-ce que Paul entend par se soumettre, est-ce que Paul veut dire que la femme, en quelque sorte, doit être l'esclave de son mari et lui obéir à tout point de vue? Est-ce qu'elle doit vivre dans la crainte aussi, dans une soumission extrême d'un mari peut-être autoritaire, dominateur, qui va exiger, qui va imposer son point de vue? Est-ce que Paul a voulu dire cela? Non. Et deux versets peut-être nous mettent sur la voie. C'est le verset 21 et le verset 33. On va regarder les deux qui sont dans le contexte de ce verset 22 qui nous dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari ». Alors, verset 21, donc il est dit de rendre, à partir du verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père de toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». On voit déjà que cette notion de soumission existe dans l'Église. Aussi, on se rend compte au verset 33 que Paul fait ici un résumé de sa pensée des versets 22 à 32, où il dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari ». Et là, Paul utilise le mot « respecter » pour, en quelque sorte, résumer la pensée qui est au-dessus. Alors, ainsi, nous avons la soumission qui est dans ce texte, qui n'apparaît pas comme quelque chose de négatif, d'humiliant ou de rabaissant, mais au contraire, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de positif. C'est une soumission dans l'amour et dans le respect qui, par ailleurs, doit exister dans l'Église. En résumé, l'homme, c'est le chef de la femme, mais il ne doit pas être le chef comme un tyran, c'est-à-dire qui va abuser d'une autorité, d'un pouvoir sur son épouse. C'est plutôt un chef responsable, responsable spirituel, ayant des comptes à rendre à Dieu. Et d'autre part, la femme, elle doit se soumettre mais volontairement à son mari, mais pas dans un sens d'esclave. Là aussi, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais dans un sens d'acceptation que Dieu a confié à son mari une autorité spirituelle. Voilà, l'expression « se soumettre » est celle qui revient le plus concernant l'épouse par rapport à son mari. Elle revient 5 fois dans le Nouveau Testament. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au mari, car il y a une expression qui revient 4 fois pour les maris par rapport à leur femme, c'est de les aimer. Marie, aimez vos femmes, que le mari aime sa femme, etc. 4 fois, tandis que pour l'épouse, on se rend compte que l'insistance est davantage mise sur la soumission. Alors pourquoi une telle insistance concernant l'épouse? Bien peut-être est-ce parce que c'est le point le plus difficile à mettre en pratique pour l'épouse, de même qu'il apparaît que pour l'homme, c'est le point d'aimer sa femme dans la durée qui apparaît le plus difficile à mettre en pratique. Bien, l'épouse doit accepter ce fait que Dieu a établi dans le couple une autorité, et c'est l'homme qui la reçoit. L'autorité donc est confiée au mari au sein de sa famille, l'autorité sur l'épouse et l'autorité sur les enfants. L'épouse aussi doit l'accepter. Je pense à Ève, par exemple, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu va parler à Ève après qu'ils aient péché tous les deux, Adam et Ève, il va dire à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et déjà Dieu laisse entendre à Ève que c'est le mari qui prendra la responsabilité du foyer. Donc l'homme et la femme, et c'est bon de le rappeler, c'est une vérité, ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. On ne peut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. On ne peut pas dire que l'homme soit supérieur à la femme ou vice-versa, ça n'a pas de sens. Par contre, ils n'ont pas reçu la même autorité de Dieu. L'homme a manifestement reçu une autorité par rapport au couple et la famille. Ils n'ont pas la même fonction, ils ont des qualités différentes et ils ont une grande complémentarité. De ce fait, le fait de reconnaître l'autorité du mari pour l'épouse, bien, ça ne fait pas d'elle un être de second plan ou un être inférieur ou un être incapable de penser ou d'agir ou de faire quoi que ce soit, puisqu'il y a une notion de concertation. Bien sûr, quand on parle de couple, il y a toujours des décisions, des orientations à prendre, et quand il y a des avis différents, il va falloir trouver des solutions. Ça se fait dans la concertation. Et puis, à un moment donné, il va falloir trancher. Et c'est pourquoi la responsabilité en incombe au mari. Maintenant, de quelle manière l'épouse doit-elle être soumise? La parole de Dieu nous informe aussi sur ce sujet. Verset 22, donc on va le voir sur l'écran. Verset 22, « Comme au Seigneur, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. » Je rappelle que dans ce passage, Paul fait un parallèle entre le mari et l'épouse et Christ et l'Église. Et tout le long du passage, vous avez ce parallèle. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, donc il y a un parallèle. Et puis, la femme doit se soumettre à son mari comme Christ, l'Église plutôt se soumet à Christ. Donc, partant de là, se soumettre à Jésus, ce n'est pas difficile. Pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus nous aime, parce que nous savons que Jésus veut le meilleur pour nous, donc nous nous soumettons à Christ. La soumission volontaire de la femme ne peut se faire que si le mari est lui-même à l'image de Christ. C'est pourquoi la responsabilité du mari est peut-être ce que Dieu demande au mari est encore plus exigeant dans un sens, puisqu'il doit être, il doit refléter, il doit être à l'image de Christ, il doit refléter Christ dans ses comportements, dans ses attitudes, etc. Et du coup, l'autorité de l'homme ne vient pas de lui, mais c'est une autorité déléguée par Dieu, et cette autorité ne remplit vraiment sa fonction que si elle est spirituelle. Vous voyez, si par exemple un mari non-croyant veut exercer une autorité, en fait, d'une manière charnelle, ça peut se faire au détriment de son épouse. Mais dans le cadre chrétien, cette autorité, elle vient de Dieu, et elle s'opère dans un cadre spirituel. Bien sûr, on est là dans le cadre du couple chrétien, le couple de deux croyants. La soumission de la femme est aussi une preuve de maturité spirituelle, parce que si la femme a soumis sa vie à Christ, alors il ne lui sera pas difficile de se soumettre à son mari, parce que la parole de Dieu lui demande. Mais si elle veut dominer sur son mari, et elle refuse l'autorité de son mari, eh bien, comment peut-elle dire qu'elle est soumise à Christ si, en même temps, elle ne met pas en pratique la parole de Dieu? Donc, vous voyez qu'il y a une conséquence logique en se soumettant à Christ et en obéissant à sa parole. Deuxième chose qu'on peut voir, comment doit-elle se soumettre? En toute chose, verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. » Paul donne-t-il ici aux hommes le droit d'agir sur leurs femmes comme ils le veulent, sans avoir d'égard, un peu comme des despotes? Non, ce n'est pas ce que le verset veut dire, bien sûr. En partant de ce verset, peut-être décalé du contexte, certains ont abusé ainsi de leur position, en faisant de leurs épouses des servantes, corvéables à merci, et des objets en quelque sorte relégués aux tâches viles, que les hommes ne voulaient pas faire. Ce n'est pas le sens du verset. Dans ce passage, le mari est toujours représenté à l'image de Christ, rempli d'amour et qui veut toujours le meilleur pour son épouse et pour sa famille. Donc, les intentions du mari ici sont toujours nobles. Les intentions du mari sont pour le bien des siens, jamais dans un but personnel, égoïste, pour profiter ou écraser. Maintenant, jusqu'où la femme doit-elle être soumise? Est-ce qu'il y a une limite? Que se passe-t-il, par exemple, si le mari est indigne? Si c'est quelqu'un de rétrograde ou quelqu'un qui vit dans le dérèglement, c'est-à-dire qui vit dans la boisson, tombé dans l'alcoolisme ou dans la drogue, qui vit d'une manière complètement détournée de Dieu. La femme, que doit-elle faire? Doit-elle se soumettre quand même à la folie, en quelque sorte, de son mari? Alors là encore, nous pouvons répondre non. Pourquoi? Parce que si l'homme bafoue l'autorité qui lui a été conférée, parce que Dieu le désire, mais si l'homme ne prend pas sa responsabilité, n'est pas sérieux dans ces choses, alors la femme n'est pas tenue de se soumettre à son mari dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est un principe que l'on retrouve vis-à-vis des autorités que Pierre établit. Connaissez ce passage lorsqu'il est demandé aux apôtres de se soumettre aux autorités. Et Pierre dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les autorités obligeaient les croyants à leur interdisaient d'annoncer la parole de Dieu. Et bien là, Pierre, bien que d'une manière générale on doit se soumettre aux autorités qui sont établies par Dieu, et bien dans des cas extrêmes, quand il y a désobéissance, quand il y a vis-à-vis de Dieu, quand il y a contradiction avec la parole de Dieu, nous ne nous soumettons plus aux autorités parce que notre grand référent, c'est Dieu directement. Donc c'est valable aussi pour le couple. Maintenant, troisième chose qu'on peut voir, comment la femme doit-elle être soumise? Colossiens 3:18 nous dit « comme il convient dans le Seigneur ». Là, vous l'avez dans ce passage, je vous le lis peut-être dans la version Parole vivante. « Épouse, soyez soumise, chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. » Voilà comment c'est traduit ici. Donc, dans le grec, c'est le mot « anéko », « comme il convient », qui signifie « ce qui est légal, ce qui est convenable, c'est un devoir ». Il est donc convenable dans le christianisme que la femme soit soumise à son mari. C'est le couple chrétien. Le couple chrétien est donc chargé de rendre un bon témoignage spirituel vis-à-vis de la société. Il faut se rappeler qu'à l'époque où ça a été écrit, le monde vivait déjà dans la débauche et beaucoup de gens, même, je veux dire, au niveau de la religion, il y avait dans la religion une sorte de débauche organisée avec des prostituées sacrées. Donc, des gens rendaient un culte à toutes sortes de divinités qui n'étaient pas la gloire de Dieu et qui aboutissaient à des sortes de déviations sur le plan sexuel. Et donc, Paul explique bien, Paul ici aux Colossiens explique bien que le mariage chrétien doit donner un bon témoignage. Il faut savoir que même dans la mythologie grecque et romaine, les divinités elles-mêmes étaient accoutumées à toutes sortes de débauches, et c'était ainsi tout à fait admis comme quelque chose de courant. Le christianisme se différencie de toutes les autres croyances. Bien sûr, il est dans la lignée du judaïsme, qui respecte bien sûr le mariage, mais ce n'était pas le cas des religions de l'époque, la plupart. Donc les épouses chrétiennes allaient être des modèles pour les non-croyants, modèles de la famille, du couple, pour montrer aux autres ce qui était convenable aux yeux de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc la famille chrétienne, voilà, elle est tirée de la parole de Dieu. Et c'est un témoignage pour interpeller les consciences, parce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas normal devient, on va dire, courant. Ce qui n'est pas de Dieu devient la manière commune, comme le concubinage ou la vie sans engagement, sans le mariage, ou le divorce, etc. Ce sont des choses courantes aujourd'hui, mais que Dieu réprouve. Alors, la famille chrétienne, dans la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui va éclairer la vérité dans les ténèbres. Alors, bien sûr, ce verset est plein d'équilibre et de sagesse. Que la femme soit soumise comme il convient dans le Seigneur. Ça évite deux écueils. D'un côté, ça prévient l'épouse contre une volonté de domination de son mari, et de l'autre côté, ça protège l'épouse d'un esclavage d'un mari qui voudrait la dominer, ou qui voudrait plutôt en profiter, etc. Comme il convient dans le Seigneur, je crois que ça fait le bon équilibre. Un autre point, peut-être, c'est dans 1 Pierre chapitre 3 et au verset 5, c'est comme Sarah qui obéissait à Abraham. Alors je vous lis ce passage, 1 Pierre 3:5. Ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pierre va prendre ici l'exemple d'un couple qui a existé, le couple Sarah, de Sarah et Abraham. Et ce que Pierre relève dans ce couple, c'est la soumission de Sarah à son mari, et qui va être une caractéristique pour lui d'une femme sainte et d'une femme qui espère en Dieu. Voilà, elle est soumise à son mari. Abraham est appelé le père des croyants dans le Nouveau Testament parce que c'était un homme de foi. Et Abraham ici, Sarah ici, est considérée comme une mère spirituelle. Si vous relisez ce texte, il est dit « c'est d'elle que vous êtes devenues les filles », en quelque sorte les filles spirituelles de Sarah. Donc les épouses sont les filles spirituelles de Sarah. Cette mère spirituelle s'est fait un petit peu, elle est devenue mère spirituelle par cette caractéristique de l'obéissance à son mari qui est relevée ici. Donc pour Pierre, voilà, c'est l'exemple à suivre. Il dit pour les épouses, vous êtes les filles spirituelles de Sarah, prenez son exemple. Maintenant, Sarah, en appelant Abraham son Seigneur, ça veut dire qu'elle a reconnu en Abraham, en son mari, qu'il avait reçu une autorité de Dieu qui lui a été déléguée, qui lui a été conférée, mais au sein de la famille. Maintenant, pourquoi l'épouse doit-elle être soumise? Peut-être un dernier point, ici. Afin de gagner un conjoint non-croyant. Hormis le fait que dans la parole de Dieu, c'est une demande expresse que la femme soit soumise, mais dans un cas, par exemple, où l'épouse est convertie et le mari ne l'est pas, la parole de Dieu nous dit que c'est un moyen de gagner son mari. 1 Pierre 3, 1. Femme, que chacune de vous de même soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alors Pierre, recommande ici la soumission quand même, malgré que le mari n'est pas converti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, soumission dans la mesure où le mari n'est pas déséquilibré ou violent ou avec toutes sortes de défaillances, bien sûr. Il recommande aussi un acte de soumission volontaire et il dit que ça va être un témoignage pour amener son mari à la foi. Donc pour lui, le mari va s'apercevoir qu'il y a eu quelque chose dans la vie de son épouse et qui a changé sa vie. Et ainsi, sans parole, dit le texte, mais par un témoignage vécu, eh bien elle va communiquer à son mari sa foi, elle va communiquer son espérance. Bien sûr, pour être sauvé, le mari devra quand même passer par la repentance, accepter le salut dans sa vie, mais son épouse va être une sorte d'élément favorable à sa conversion. Donc ce verset nous montre que les actes parlent plus que les paroles. Deuxième partie, peut-être maintenant, concernant l'épouse. Elle doit aimer son mari et ses enfants. Alors là, vous le retrouvez dans Tite, chapitre 2, et au verset 3 et 4, dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors à l'époque, on se rend compte que les femmes âgées avaient un rôle de formation vis-à-vis des plus jeunes, une transmission du savoir, de l'expérience, de la connaissance qui était beaucoup plus développée peut-être que dans nos sociétés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dénigrement de la personne âgée, qui souvent on la considère comme dépassée, comme inutile, mais en tout cas dans la parole de Dieu ce n'est jamais le cas. La parole, et il nous est bon, nous chrétiens, de prendre conseil auprès de personnes d'âge mûr, personnes engagées avec le Seigneur depuis longtemps, qui vont être précieux pour nous. Alors, qu'est-il dit pour l'épouse? Premièrement, elle doit aimer son mari. On se rappelle que c'est réciproque. Il est demandé à l'homme d'aimer son épouse, et puis il est demandé à l'épouse d'aimer son mari. Dans ce verset, il est dit que l'amour doit s'apprendre, puisque les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes. Elles doivent l'apprendre à aimer. Donc, je voudrais rappeler ici que l'amour dont il est question, dont nous parlons, l'amour véritable, n'a rien à voir avec le sentiment amoureux qui est juste une émotion passagère et qui peut changer comme ça de personne en personne. Non, l'amour s'apprend, l'amour il est dans la durée et l'amour se maintient dans les difficultés. Il y a une très belle définition de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, peut-être je vais vous la rappeler, je vais juste le relire. 1 Corinthiens chapitre 13 et au verset 4, dit ceci, « L'amour est patient, L'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et dans le couple, on a besoin de tous ces éléments-là, bien sûr, du côté de l'homme comme de la femme, pour aimer. Aimer aussi, il y a la notion de pardon. Savoir pardonner, parce qu'il y a parfois des moments, des choses difficiles à passer. Il va falloir patienter, il va falloir pardonner, etc. Aimer son mari, aimer ses enfants, deuxième chose, c'est surtout le rôle affectif de la mère de famille, qui est mise en valeur dans la parole de Dieu. Une mère de famille disponible, une mère de famille à l'écoute de ses enfants. Et souvent, l'épouse ressent plus les besoins de ses enfants que le mari. Elle a une écoute peut-être plus fine, certainement liée à l'intuition plus développée, l'intuition plus fine de l'épouse par rapport au mari. Donc, c'est tout à fait, elle a un rôle clé, bien sûr, dans la famille, donc épouse et mère de famille. Et ce qui est primordial, ce qu'on pourrait dire pour terminer ce point, c'est qu'elle a un rôle spirituel, c'est-à-dire qu'elle va par son exemple favoriser le fait que ses enfants vont se tourner vers le Seigneur. On a un exemple comme ça dans le Nouveau Testament avec Timothée. Timothée, dont la grand-mère était croyante, Loïs, sa mère était croyante, Eunice, et puis Timothée lui-même s'est tourné vers le Seigneur. Donc vous avez ici un exemple de trois générations dont il est dit que les mères étaient habitées d'une foi sincère. Et ça a touché ainsi la génération suivante qui s'est tournée vers Dieu. Bien sûr, on ne naît pas chrétien, on le devient. Timothée a dû faire son expérience. Mais il y avait ce cadre familial favorable à une bonne communication de l'Écriture. Et enfin, on peut terminer par une dernière partie, qui sont les qualités de l'épouse dans la parole. Alors, vous avez un texte dans Tite, chapitre 2, et au verset 5. Tite 2, 5. C'est toujours ces femmes âgées qui doivent apprendre aux plus jeunes, donc à aimer leur mari, et puis là, toutes sortes de choses, à être retenue, à être chaste, à s'occuper aux soins domestiques, à être bonne, etc. Donc, si on reprend tous ces termes, le premier, c'est être retenue. Dans le grec, ça évoque la tempérance et la modération. Cela ressort des différentes traductions, car j'ai consulté aussi les autres traductions, et chaque fois, c'est traduit d'une manière différente. Donc, c'est traduit par être sage, être réservé, être pondéré, être équilibré, être sensé, être modeste. Voilà. Tout ça, c'est la qualité d'une épouse. Une épouse qui ne sait pas retenir sa langue, ça va poser un problème dans les relations du couple. Une épouse qui parle à tort et à travers. Je me suis retrouvé comme ça dans une situation un petit peu étrange. On était invité dans un repas et il y avait un autre couple chrétien avec nous. Et donc on était là pendant la table et tout d'un coup pendant le repas, je ne sais plus pourquoi, dans la conversation, l'épouse se tourne vers son mari et puis lui dit « Oui, mais toi, tu n'es qu'un... » Ça commençait par un C, j'ose pas vous le répéter. En plein repas, hein, je vous dis pas. Ça, c'était difficile à récupérer. Alors, elle dénigrait son mari devant tout le monde. Et évidemment, c'était gênant pour le mari, c'était aussi gênant pour tout le monde. Et donc, ce ne sont pas des choses qu'il convient de faire. Alors, c'est des situations, bien sûr, pour un chrétien, bien que là, c'était un couple chrétien, qui ne sont pas bonnes. La femme doit être retenue. Elle doit être chaste, c'est le deuxième terme. Elle doit être chaste, c'est-à-dire, ça évoque littéralement la pureté. Vous avez cette traduction dans la version Darby ou la version Sommer. C'est le mot pureté. Pureté en pensée, pureté en action. C'est-à-dire que l'épouse doit être fidèle à son mari et elle ne doit pas entretenir de mauvais sentiments vis-à-vis de lui. Troisième terme, elle doit être occupée aux soins domestiques. Le grec signifie, elle doit garder, veiller sur la maison. Et on se rend compte que dans la parole, cette responsabilité confiée aux épouses, qui concerne l'ordre, la propreté, la bonne tenue d'une maison. Cela ne veut pas dire que le mari ne doit rien faire dans tout ce qui est ménager. Mais cette responsabilité, en tout cas, incombe à la femme en première. D'ailleurs, dans les autres versions, j'ai consulté, que ce soit la semeur, par exemple, l'épouse est appelée la maîtresse de maison, ou dans la version de Jérusalem, une femme d'intérieur. Ce n'est pas une tâche humiliante dans la parole de Dieu que de remplir cette fonction. En tout cas, ce n'est pas dénigré dans la Bible. Peut-être dans notre société, cela paraît un petit peu désuet ou quelque chose de dépassé, mais en tout cas, dans ce qui concerne la parole, c'est quelque chose de valorisant. La parole de Dieu met en avant la femme au foyer. Elle n'en fait pas quelque chose comme une tare. Une femme qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa maison, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas toujours évident dans nos sociétés, parce que dans beaucoup de couples, les deux conjoints travaillent, tous les deux, donc ce n'est pas forcément possible, toujours à mettre en pratique. Mais quand c'est possible, en tout cas, c'est le meilleur choix pour l'épanouissement de la famille. Quatrième chose qu'on peut voir, elle doit être bonne. La bonté, c'est une caractéristique de vie au service des autres. Et bien sûr, l'épouse se donne sans compter pour son foyer, pour son mari, ses enfants, toutes sortes d'activités, car une vie de famille laisse peu de répit à l'épouse, et souvent beaucoup de travail. Et c'est une vie de sacrifice. Enfin, cinquième qualité, ce texte se trouve dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. L'épouse doit avoir une parure intérieure et cachée. 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors Pierre, ici, rappelle aux épouses où se situe la véritable beauté. Elle n'est pas dans l'apparence extérieure. C'est vrai que les femmes aiment naturellement ce qui est beau, comme les ornements, la parure, les bijoux, et toutes ces choses, et peut-être en plus de goût dans ce domaine-là. Et puis, il est question de la chevelure, et les femmes prennent davantage de temps à prendre soin de leur beauté que les hommes. Alors Pierre dit aux épouses, voilà, il ne faut pas tomber dans un excès de mode, ou de rechercher toujours à plaire, etc., à suivre toujours parce que ça coûte aussi cher, parce que ça prend du temps, etc. Donc il ne faut pas tomber dans des excès là-dedans. Mais Pierre leur rappelle, la véritable beauté est intérieure. Bien sûr, Pierre ne dit pas non plus qu'il faut se négliger pour avoir la beauté intérieure. Ce n'est pas le sens du verset. C'est une question d'équilibre. Mais la véritable beauté aux yeux de Dieu, c'est un esprit doux, un esprit paisible, c'est-à-dire la manifestation du fruit de l'esprit. Voilà ce que doit rechercher donc l'épouse. Et puis, dernier point, c'est qu'elle doit être vertueuse. C'est au Proverbe 12, verset 4. Elle est vertueuse. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alors, une femme vertueuse, vous avez tout le chapitre, enfin, toute une partie du chapitre 31 des Proverbes qui définissent bien ce qu'est la femme vertueuse. J'en ai repris quelques éléments. La femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et elle craint l'Éternel, elle sera louée. Voilà, toutes les vertus de la femme, de l'épouse, sont mentionnées ici. Alors, en conclusion, on termine. L'épouse est caractérisée dans la parole par quelques éléments qu'on a cités. Bien sûr, la soumission volontaire, on a bien expliqué ce que c'était, à son mari, dont elle reconnaît l'autorité. Elle a aussi une responsabilité de mère de famille, de femme d'intérieur, et aussi des qualités qui sont mises en valeur dans la parole de Dieu, comme un impact spirituel sur son mari s'il n'est pas converti, un impact en tout cas sur les enfants, pour leur salut, pour les amener à la connaissance de Jésus. On va prier quelques instants le Seigneur. Que Dieu bénisse nos familles et que chacun puisse prendre sa place, autant les maris, maris qui doivent prendre pour modèle Christ, que les épouses, dont nous avons vu ici les différentes qualités, ce qui est nécessaire dans la parole. Seigneur, nous te prions de bénir notre assemblée et de bénir les foyers que nous représentons, les couples, les familles, afin que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Merci de nous conduire dans ta parole, à saisir tout ce que tu veux nous enseigner et à nous conformer à ce que tu désires, toi pour la famille, à ton modèle divin. Bénis chacun, Seigneur, dans sa situation et encourage-nous à te servir avec fidélité. Bénis particulièrement les épouses, ceux qui ont cette responsabilité vis-à-vis des enfants aussi. Notre Dieu, nous te prions de les encourager, de les bénir et de permettre que vraiment elles soient honorées. Notre Dieu, nous désirons te servir.